Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nouveau rendez-vous de la biodiversité samedi en ce beau mois de mai à l'initiative du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Découvrons ensemble aujourd'hui l'habitat des laisses de mer. Et pour ce faire, je reçois Pascal Lacroix de Lacroix Botanique, spécialiste d'expertise et médiation scientifique. Bonjour Pascal.
Bonjour Emmanuel.
Alors tout d'abord, c'est une première pour vous sur Nove FM. Vous venez de l'Euro-Atlantique, c'est la première fois que vous venez à la tête de votre société depuis 3 ans maintenant.
Oui, c'est ça. Alors c'est une petite société individuelle. En réalité, je suis le seul salarié de cette entreprise.
Que vous avez lancé où précisément ?
Donc moi je suis en fait à Saint-Jean-de-Boiseau, donc pays de Ré, mais sur les rives de l'estuaire de la Loire.
Alors vous êtes botaniste, vous êtes aussi phytosociologue et écologue de formation. Est-ce qu'on peut préciser tout ça ?
Oui, c'est des disciplines qui se complètent. Donc je suis d'abord botaniste, donc j'étudie la flore sauvage, les plantes à fleurs plus particulièrement. Et puis effectivement phytosociologue parce que je m'intéresse aussi au milieu de vie en fait des plantes et à ce qu'on appelle les habitats naturels en fait, qui reposent sur la notion d'association végétale. Donc en fait je m'intéresse à la façon dont les plantes se regroupent et forment des communautés végétales, voilà, pour décrire différents types de prairies par exemple, différents types de forêts, voilà. Et écologue aussi parce que du coup l'écologue s'intéresse aux conditions de vie en fait des êtres vivants et donc je suis amené en fait à poser des diagnostics sur l'état de conservation des habitats et sur les conditions de milieu en fait qui vont favoriser la diversité, la biodiversité végétale.
On comprend mieux votre présence aujourd'hui pour nous parler de l'habitat des laisses de mer. Vous avez travaillé longtemps en Franche-Comté, donc vous voici en Pays de la Loire et justement vous travaillez essentiellement sur la région.
Oui, aujourd'hui, donc mon rayon d'action, c'est la Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, et je suis quand même souvent amené à travailler donc sur le littoral, voilà. Et précédemment, j'ai aussi travaillé au Conservatoire botanique national de Brest, voilà, donc des fonctions à la tête d'une petite antenne à Nantes, avec des enjeux au niveau de la région qui m'ont souvent amené en fait dans le secteur. Et pour la petite histoire d'ailleurs, dès mon installation dans la région en 99, j'avais été amené à participer aux cellules d'expertise environnementale dans le cadre de la marée noire de l'Erica. Ce qui en fait est quand même un petit peu en lien avec notre sujet, parce qu'en fait, les laisses de mer avaient été beaucoup touchées par les galettes de l'Erica.
Oui, effectivement, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. La laisse de mer, voilà, c'est un terme qu'on entend depuis un petit moment dans le secteur, on en voit de plus en plus aussi. Qu'est-ce qu'on appelle précisément les laisses de mer ?
Alors les laisses de mer, c'est d'abord des amas en fait constitués par les algues marines, les algues, alors principalement des algues brunes, qui sont arrachées en fait sur les strands rocheux par les tempêtes hivernales en particulier, et qui viennent s'accumuler en haute plage, donc sur les plages à la limite supérieure en fait atteinte par les marées de vives eaux.
En tout cas, c'est ce que la mer a laissé.
C'est ce que la mer a laissé, d'où le terme, voilà. Et donc ce sont des algues aussi, mais également des bois flottés, des coquillages.
Voilà. Et puis des déchets humains aussi, les laisses de mer, vous comptez tout ce que l'homme a fait venir via la mer.
Oui, malheureusement, il n'y a pas que des constituants naturels dans cette laisse de mer, mais beaucoup de déchets, de macro-déchets, de plastique, tout un tas de déchets qui malheureusement en fait circulent à la surface des océans et qui viennent se déposer eux aussi à la limite des hautes plages.
Oui, alors justement les laisses de mer, vous les considérez comme des frontières entre terre et mer presque.
Oui, de par du coup leur situation en haut des estrands sableux, là à la limite atteinte par les plus hautes marées, effectivement, c'est on peut considérer que c'est la frontière, même si elle est un petit peu mouvante en fonction des saisons, la frontière entre le domaine marin et le domaine terrestre.
Alors pour nous, simples terriens et profanes surtout, on peut voir et on sait que beaucoup voient les laisses de mer comme des déchets naturels qui se décomposent. Voilà, on n'a pas très envie de marcher à côté, mais cette décomposition, elle n'est pas sans intérêt. Et d'ailleurs, en préambule de l'émission, vous me disiez, des agriculteurs l'ont compris, et ce depuis très très longtemps.
Oui, c'est assez connu. Effectivement, le goémon, parce que c'est le terme qu'on peut utiliser aussi pour parler de ces algues qui se déposent sur les plages, était autrefois ramassé par les agriculteurs pour s'en servir comme engrais. Et c'est effectivement le rôle qu'elle joue dans le milieu naturel, c'est l'aise de mer. Sur les plages, on a pourtant un engrais, en fait, tout un terreau de par leur décomposition, qui va nourrir tout un petit écosystème, en fait, qui commence, en fait, par l'alimentation de plantes, donc annuelles, dont on va parler, voilà, et puis qui, derrière, vont nourrir aussi un certain nombre d'invertébrés, voire des oiseaux. Donc, la décomposition de ces laisses de mer qui vont produire beaucoup d'azote. Donc c'est vraiment l'élément en fait fondateur de ce petit milieu très intéressant des laisses de mer.
Et vous dites c'est une niche écologique mais qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Oui, une niche écologique dans la mesure où en fait où les conditions sont quand même très particulières. Hein. Alors le sable sans les laisses de mer c'est un milieu très pauvre en nutriments. Hein. Donc mais là paradoxalement grâce aux laisses de mer à leur décomposition donc elles vont produire de l'azote sous forme de nitrate. Elles vont permettre à des plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote, donc on appelle et de nitrate, on appelle ces plantes des plantes nitrophiles, de pousser. Voilà. Et par ailleurs, une autre caractéristique de ce milieu, hein, c'est d'être confronté à la présence de sel. On est quand même au contact de la mer. Et donc, les plantes qui arrivent aussi à pousser dans ces milieux-là, elles sont pas nombreuses, en fait. Elles sont très spécialisées. Et c'est des plantes halophiles, elles, donc, qui vont réussir à tolérer la présence de sel. Donc, voilà, si on combine le fait qu'il y a des plantes halophiles, des plantes nitrophiles, les plantes des laisses de mer, on les désigne par ce terme d'halonitrophile.
Et pour la petite histoire, on doit à ces plantes le savon de Marseille ?
Oui, parce que là aussi, traditionnellement, on a utilisé ces laisses de mer pour produire de la soude. La soude, c'est un carbonate de sodium, en fait. Et donc, la combustion, à la fois des algues, potentiellement, mais aussi de ces plantes qui poussent, ces plantes à fleurs qui poussent sur les laisses de mer, produit du carbonate de sodium. Et donc, dans la recette traditionnelle du savon de Marseille, en fait, on mélange ce carbonate de sodium avec de l'huile d'olive. Assez simplement, je ne connais pas exactement le détail, mais en effet, c'est à l'origine de la recette du savon de Marseille.
On apprend toujours plein de choses dans cette émission. Alors, si on parle des laisses de mer aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Un cycle biologique est en train de démarrer ou va démarrer, si ce n'est déjà fait, effectivement. Petite pause musicale et on vous retrouve, Pascal Lacroix, dans quelques minutes.
Pull me into somewhere new and I never knew a pool so infinitely
thème dans la biodiversité samedi. On s'intéresse aujourd'hui au laisse de mer avec Pascal Lacroix, qui nous vient de Loire-Atlantique, qui travaille dans son entreprise, Lacroix Botanique, spécialisée dans des expertises et médiations scientifiques. Et donc, on l'a dit au début, vous êtes botaniste, hein, phytosociologue, écologue. Et si nous parlons aujourd'hui des laisses de mer, sur invitation du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf, ce n'est pas par hasard, hein. Il y a toujours un calendrier qu'on suit. Je crois que voilà, début mai, c'est un cycle biologique qui démarre.
Oui, parce que ce qu'il faut commencer à dire, c'est que les plantes des laisses de mer, pour la plupart, sont des plantes annuelles. Donc en fait, elles passent toute une partie de la mauvaise saison à l'état de graines. Et au début du mois de mai, jusqu'en juin, en fait, c'est le début du cycle pour ces espèces-là qui vont germer. Alimentées et nourries par la décomposition des laisses de mer de cet hiver. Et en quelques mois, en fait, jusqu'aux grandes marées d'équinoxe d'automne, elles vont boucler leur cycle biologique, c'est-à-dire germer, pousser, fleurir et fructifier. Et au moment où elles mourront, en septembre, octobre, aux premières tempêtes d'automne, elles auront déjà libéré leurs graines. Voilà, et elles seront prêtes à passer un nouveau cycle d'automne-hiver dans le sable, voilà, où elles sont du coup conservées bien à l'abri, des fois aussi distribuées, reprises par la mer et du coup éparpillées, redistribuées sur les côtes.
On peut voir ces plantes, à quoi elles ressemblent ces plantes à l'œil nu ?
Alors c'est des plantes qui sont de taille moyenne, hein, qui sont quand même visibles à l'œil nu puisqu'elles font quelques dizaines de centimètres. Voilà. Elles se présentent de manière assez clairsemée, ces végétations de haute mer. En fait, hein, ça ne forme pas en fait des végétations continues comme des prairies. C'est clairsemé, discontinu, à l'image des paquets d'algues qu'on voit sur les laisses de mer, en fait. Voilà. Et c'est une végétation très linéaire aussi. Alors, les espèces concernées, par contre, attirent généralement pas beaucoup le regard, puisqu'effectivement, même si c'est des plantes à fleurs, leurs fleurs sont généralement petites, verdâtres. Voilà, donc elles ne sautent pas aux yeux, il faut s'intéresser, se pencher un peu sur elles pour les découvrir.
Alors justement, vous nous parlez des espèces bien identifiées, on va en décrire quelques-unes, en évoquer quelques-unes. Déjà la roquette de mer.
Oui, la roquette de mer. Donc elle fait un petit peu exception à ce dont je parlais, c'est-à-dire le caractère un peu discret des fleurs, puisque là on a affaire comme à une plante qui produit des petites fleurs assez jolies, à quatre pétales. Couleur lilas, blanc. En fait, c'est une plante de la famille des brassicacées. On connaît bien cette famille, hein, c'est la famille des choux. Et on appelait cette famille aussi la famille des crucifères autrefois, parce que leurs pétales sont disposés en croix. Et c'est une famille qui se reconnaît assez facilement. Et donc, c'est vraiment la plante emblématique des laisses de mer, en fait, qu'on trouve assez systématiquement dans ces milieux-là. Donc, à des feuilles un peu charnues, un peu grisâtres. Voilà, ça peut former des buissons là assez imposants, jusqu'à 1 mètre de diamètre pour les plus grandes. Voilà.
Mais elle est comestible ?
Oui, c'est pour ça qu'elle s'appelle la roquette de mer, hein, comme d'autres salades qui peuvent porter ce nom générique, hein, de roquette. Et donc oui, elle est comestible. Les feuilles ont d'ailleurs un petit goût agréablement salé, en fait. Et puis comme elles sont un peu charnues aussi, elles ont une texture assez agréable.
Alors, autre exemple avec les amarantacées.
Oui, les amarantacées. Donc là, on est sur une famille entière, en fait, à laquelle plusieurs plantes de laisse de mer appartiennent, enfin, dont elles font partie. Alors là, c'est typiquement des plantes qui ont des petites fleurs assez discrètes. Voilà, mais c'est une famille néanmoins qu'on connaît, alors qui portait d'ailleurs le nom de Chénopodiacées avant. En fait, ça a été assemblé, les amarantacées, les Chénopodiacées, pour la petite histoire. Mais c'est quand même une famille que le grand public connaît assez bien, puisque c'est la famille de la betterave, des chénopodes, la famille des salicornes aussi, des amarantes. Voilà, donc tout un tas de plantes comestibles. Et c'est une famille qui, sur le plan écologique, a la particularité d'être particulièrement bien adaptée au milieu, justement, salé.
Oui, justement, ces plantes, elles ont une grande capacité d'adaptation.
Oui, elles ont développé plusieurs stratégies d'adaptation pour résister au sel. Donc le sel qui est quand même un poison, en fait, pour les plantes. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des feuilles un petit peu charnues de la roquette. Donc chez les amarantacées, on retrouve aussi ce caractère charnu, succulent et c'est lié à une première adaptation qui consiste pour ces plantes à conserver de l'eau dans leur tissu, en fait. Donc ça, c'est une première adaptation. Il y en a d'autres, une autre adaptation qui est illustrée par la roche des sables, donc une amarantacée, qui, elle, en fait, va rejeter le sel à la surface de ses feuilles. Donc en fait, elle l'absorbe quand même, mais elle l'évacue pour pas conserver ça à l'intérieur de ses tissus. Et ça se voit en fait à la surface de ses feuilles qui ont un aspect farineux, un petit peu blanchâtre. D'ailleurs, on peut enlever en fait ce petit dépôt blanchâtre, c'est du sel en définitive. Et les feuilles possèdent des glandes spécialisées dans l'excrétion du sel.
C'est la magie de la nature, hein, l'adaptation. Ouais. Vous identifiez aussi dans les laisses de mer une plante qu'on connaît bien ici, qui a réapparu en Ouest Vendée, c'est l'euphorbe pépils, une plante dite prostrée.
Oui, le fort pépilis, c'est une plante prostrée. Alors, c'est parce qu'en fait, elle est plaquée au sol. Donc, elle a une petite racine pivot et puis ensuite des tiges qui se divisent par deux, en fait, et qui rayonnent, et qui s'étalent en cercles, voilà, des petits cercles de 5 à 40 cm de diamètre avec des petites tiges rougeâtres. Et elle, c'est pas une amarantacée, hein, c'est une euphorbiacée avec des. Là aussi, des petites fleurs très discrètes. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de sépales. Donc, les étamines et les pistils sont réunis, en fait, dans des bractées, c'est-à-dire des petites feuilles qu'on appelle des ciates. Et cette espèce, elle est quand même particulièrement intéressante parce que elle va bien illustrer, on va dire, les enjeux de protection liés à la laisse de mer. Et c'est une espèce qui a beaucoup régressé depuis les années 70. Dans le contexte, on va dire, du développement du tourisme sur les côtes.
Mais elle est aujourd'hui protégée, on l'a vu réapparaître.
Oui, alors elle est protégée réglementairement, hein, donc, et même strictement, on n'a pas le droit de l'accueillir si l'idée venait à quelqu'un d'en faire un bouquet, ce qui serait un peu saugrenu. Et son milieu aussi est protégé. Et on l'a vu réapparaître, oui, parce qu'il y a des mesures de protection qui ont été orientées en faveur de cette espèce-là dans la région, dans le cadre d'un plan de conservation régional, qui a consisté notamment à protéger le dernier bastion de cette espèce, donc qui faut quand même dire, autrefois était connue comme une espèce commune en fait par les botanistes. Hein. Au 19e, c'était une espèce commune jusqu'à l'estuaire de la Vilaine. Donc pour illustrer la situation, l'état de la régression de cette espèce-là, effectivement, dans les années 80, à l'époque où elle a été mise en protection au niveau national, sur la façade atlantique, on ne connaissait plus qu'une seule localité en Vendée. Heureusement gérée par l'Office national des forêts. Et dans les années 2000, donc il y a des mesures de protection là qui ont été mises en place sur ces hautes plages pour les protéger et qui ont été très efficaces puisque la population locale s'est développée et ça a fait un gros foyer qui a permis en fait d'essaimer. Et dans les années au début des années 2000, on l'a vu réapparaître effectivement sur le territoire, sur la plage de la Grande Côte, notamment à la Barre de Mont, sur l'île de Noirmoutier, aussi sur l'île Dieu.
Donc la protection, ça fonctionne. Alors justement, pourquoi sont-elles si importantes, ces laisses de mer, que justement on les protège réglementairement? Et bien réponse dans 3 minutes.
Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie, je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens, je tomberai pas dans le panneau. J'attends pas la révolution, mais on change pas le cours de l'histoire en foutant feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable.
d'amis, plus de frères. Où tu brilles, où tu perds, je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau.
Un complément de salaire cet été, ça vous intéresse ?
Que votre vœu soit exaucé.
Outim Immobilier recrute pour effectuer les états des lieux et le ménage de ses 250 locations vacances. Vous êtes salarié en activité ou retraité et disponible le samedi sur juillet-août ? Alors rejoignez-nous. Aucun diplôme requis. La formation sera assurée en interne. Rémunération sympa. Intéressé ? Appelez-nous. Outim Immobilier, c'est l'agence de la plage à Saint-Jean-de-Mont et l'agence montoise à Notre-Dame-de-Mont. À retrouver sur otim.fr.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qui va vous arriver en vous rendant au Nid Partagé. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bar chaleureux et convivial où des jeux de société sont mis à disposition, avec de nombreux événements ainsi qu'un espace de coworking. De quoi vous amuser, consommer, créer, travailler, partager sur bien des sujets. Un très bel endroit pour vous y sentir comme à la maison. D'ailleurs, je crois qu'une partie va commencer. Je dois filer. Retrouvez tous les ateliers et la liste des jeux de société disponibles sur le site internet lenidpartagé.fr. Le Nid Partagé, 3 rue de la Redoute, à Chaland.
La mission locale Vendée Atlantique, c'est une mission de service public qui permet de créer un pont entre toutes les générations.
Ça consiste en quoi concrètement ?
Déjà, nous pouvons soulager et soutenir les parents. La mission locale est réactive et à l'écoute des plus jeunes pour leur permettre d'avancer, quelles que soient leurs difficultés et leurs projets, et leur faire rencontrer d'autres personnes de leur âge. C'est un regard extérieur essentiel pour se construire.
Les entrepreneurs peuvent vous aider ?
Bien sûr. La mission locale Vendée Atlantique, c'est un partenaire de confiance pour recruter de jeunes talents et diffuser les offres des entreprises. Contactez-nous.
Vous êtes bien sur Nav FM dans la biodiversité samedi, premier samedi de chaque mois. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Lacroix, qui est botaniste, entre autres, qui nous parle des laisses de mer et de l'habitat des laisses de mer. Ces laisses que beaucoup de collectivités doivent protéger. Mais alors pourquoi ? Déjà, Pascal Lacroix, elles abritent des espèces rares et menacées déjà intrinsèquement.
Oui, on a parlé de l'euphorbe bépis. Il y a une autre espèce là qui est la renouée maritime, qui est une espèce protégée. Et donc, des espèces rares et menacées, des espèces très spécialisées au niveau écologique. Donc, c'est un habitat d'espèces intéressant. Et donc, c'est un premier motif pour conserver les laisses de mer.
Vous parlez même d'un habitat d'intérêt communautaire.
Oui, il y a une directive européenne qui a été prise en 1992, qui s'appelle la directive Habitat Faune Flore, et qui a institué, en fait, une liste d'habitats d'intérêt communautaire, en fait, des habitats qui sont menacés à l'échelle européenne. Ces habitats, ben, en fait, constituent l'argumentaire qui a permis de désigner des zones Natura 2000, en fait, un réseau écologique qui s'est développé au niveau européen, en fait. Et donc, la baie de Bourgneuf, les rives de l'île de Noirmoutier, enfin, tout le marais breton aussi, sont classés en Natura 2000. Et donc, les laisses de mer, c'est un des habitats d'intérêt communautaire du territoire et du site Natura 2000, de la baie de Bourgneuf et de l'île de Noirmoutier et du marais breton.
On a parlé des végétaux, mais il y a aussi des animaux dans les laisses de mer.
Oui, alors bon, c'est pas ma spécialité, hein, mais effectivement, donc, les laisses de mer, c'est aussi un habitat d'espèces pour la faune. Je dirais à commencer par tout un tas de petits invertébrés. Alors des insectes, mais pas seulement, on peut citer la puce de mer, en fait, c'est le talitre, donc qu'on connaît bien, qui peut faire peur aux gens, mais je crois qu'en fait, c'est une légende de penser qu'elle pique. mais tous ces insectes, en fait, constituent des petites chaînes alimentaires, parce qu'il y a des invertébrés, donc ils contribuent à décomposer ces laisses de mer, à les fragmenter, à les digérer. Et puis il y a aussi des oiseaux, et en particulier le gravelot à collier interrompu, hein, dont c'est l'habitat spécifique en fait, et qui va déposer ses œufs au sol, au niveau de la laisse de mer. Donc ce qui l'expose quand même à des risques de piétinement. Et les ornithologues, chaque année, repèrent les nids et les protègent des risques d'écrasement. en les mettant à des fins avec des petites clôtures autour.
On va reparler, mais non, on ne marche pas sur les laisses de mer. Elles ont en prime aussi un rôle protecteur pour les dunes, donc c'est aussi important pour notre territoire.
Oui, en quelque sorte, c'est quand même le premier maillon en fait, de la dune, même si la végétation des laisses de mer, c'est une végétation éphémère, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un cycle assez court. Ces amas d'algues et puis la présence de ces plantes là, qui poussent à la belle saison, contribuer à capter en fait le sable. D'ailleurs, on peut le vérifier, on voit en fait hein, que ça forme des mini-dunes autour des plantes, des petites dunes qui s'amoncellent plus efficacement du fait que les plantes poussent en fait et s'élèvent plutôt que un obstacle inerte comme un caillou en fait qui peut former lui aussi une petite dune, mais elle va pas grandir, voilà. Et donc la laisse de mer, ben, en fait c'est le début de la dune. Ça permet aussi quand on protège la laisse de mer de protéger ben, tous les autres compartiments de la dune qui vont arriver après, donc ce qu'on appelle la dune embryonnaire, la dune blanche et puis la dune grise. Voilà, donc oui, protéger la laisse de mer, c'est protéger aussi indirectement la dune dont elle fait partie.
Et donc c'est fort de toutes ces connaissances hein, que l'homme a décidé aussi de protéger eh bien une laisse de mer qu'il menace, puisque c'est nous, hein, les hommes, les femmes, qui aimons se promener sur la plage, lézarder, pourquoi pas très loin de ces algues, pourquoi pas les enlever. D'ailleurs, on en parle depuis des années, les collectivités ne nettoient plus les plages comme avant. Aujourd'hui, un vrai nettoyage raisonné, ça fait partie voilà des avancées.
Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, hein, mais c'est vrai que au départ, il y a quand même une pression, et puis faut l'avouer, je pense pour la plupart d'entre nous, quand on va sur les plages, on n'a pas forcément envie de la présence de ces algues dans l'eau ou sur le sable. Mais donc je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Et effectivement, il y a quand même des mesures de protection qui consistent à effectuer une sorte de zonage du territoire, c'est-à-dire reconnaître certains espaces voilà, à vocation plus balnéaire, où là on va retirer les algues, et puis des secteurs avec des enjeux de biodiversité, où là les laisses vont être strictement protégées. Et où on va pouvoir du coup observer toute la flore, la faune dont on a parlé.
Alors, avant dernière question, vous l'avez évoqué en début d'émission, c'est la menace des marées noires, et ça on en a connu quelques-unes importantes aussi ici. Ça a été vraiment parfois des coups d'arrêt à l'évolution de la laisse de mer, des laisses de mer.
Bah oui, lors de cette fameuse marée noire là de l'Erika en 1999, donc il s'est caractérisé hein, par le dépôt de certaines nappes de pétrole, mais plus souvent c'était plein de petites galettes de tailles diverses, et naturellement en fait elles se sont déposées au niveau de la laisse de mer hein, comme tout en fait les objets dérivants flottant à la surface de l'eau en fait les collectivités ont été contraintes d'enlever ces laisses de mer de manière on va dire indifférenciée, en retirant beaucoup d'algues en fait pour peu de pétrole. Et cette année-là, en fait, les laisses de mer n'ont pas été trop à la fête. Et s'il y a du coup pas d'algues, hein, du coup, pas de plantes, et tout le petit écosystème des laisses de mer est complètement sevré et s'exprime pas.
On comprend bien, en tout cas, en vous écoutant, l'enjeu pour la biodiversité, les enjeux. On va terminer l'émission avec cette question que je pose hein, à chaque fin d'émission là cette année. Qu'est-ce qu'on ne doit pas rater, selon vous, dans la défense de la biodiversité? À côté de quoi on ne doit pas passer?
Moi, j'invite vraiment tout le monde à être curieux en fait de nature. Je pense que là, dès qu'on commence à observer, à s'intéresser à la nature, c'est forcément une source d'émerveillement, et je pense que l'émerveillement, la connaissance du milieu, c'est vraiment le préalable et le moteur en fait pour prendre conscience de l'intérêt de la biodiversité et puis de la nécessité de la protéger, voilà. Et donc en faisant le lien avec notre sujet des laisses de mer, j'invite aussi tous les estivants, les locaux, les touristes à regarder quand ils sont à la plage un peu passivement ces laisses de mer, à essayer de regarder toute la vie qui foisonne et accepter du coup leur présence. Voilà, je pense que en s'y intéressant, j'imagine que ils seront quand même beaucoup plus enclins à accepter les petites contraintes qui vont avec ces laisses de mer.
On va les regarder différemment aujourd'hui, hein. On ne les regardera plus de la même manière. Merci beaucoup Pascal Lacroix. L'émission sera très vite en podcast hein, sur le site et l'appli de Nove. Et puis je vous souhaite un très très bon week-end.